BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business dont vous connaissez la seule ambition, vous donner envie de lire des livres d'économie. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Puis nous retrouverons nos deux critiques habituels, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, qui vous livreront leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis, on terminera avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdedaïm, notre globetrotteur, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, pour leur rubrique livre d'ailleurs. Livre d'avant, on terminera évidemment par la dernière minute. Et tout de suite, on commence avec nos auteurs. On va s'interroger dans cette librairie de l'écho sur l'évolution assez inexorable des dépenses de santé qui augmentent. Et on va s'interroger plus globalement, comment peut-on avoir un système de santé durable. Pour cela, deux invités aujourd'hui. Le premier, c'est Gérard Boivin. Bonjour Gérard Boivin. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de surveillance du groupe Bell. On connaît tous le groupe Bell, hein, c'est la vache qui rit, le Lerdamer, le Babybel. Vous êtes aussi professeur au CNAM et vous publier alors un photoglyphe. Alors, vous nous expliquerez ce que c'est que dans la forme assez révolutionnaire que cette nouvelle sorte de livre. Et puis, évidemment, vous nous expliquerez pourquoi vous voulez briser en quelque sorte le cercle vicieux entre la malbouffe et les dépenses croissantes de santé. Pour évidemment essayer de rendre tout ça un petit peu plus soutenable. Et puis, on s'interrogera avec Frédéric Bizard, notre deuxième invité. Bonjour Frédéric Bizard.
Bonjour.
Vous êtes économiste de la santé, vous êtes enseignant à Sciences Po. Vous savez que vous êtes notre premier invité à venir pour la deuxième fois dans cette émission, mais vous publiez deux livres à intervalles très rapprochés. Et puis, celui que vous publiez est d'actualité, puisque il concerne les complémentaires santé. Depuis le 1er janvier, tout le monde est obligé d'avoir une complémentaire santé, et vous tirez la sonnette d'alarme dans ce livre qui s'appelle Complémentaire santé, le scandale. On verra de quoi il retourne. Alors, on commence avec vous, Gérard Boivin. Alors d'abord, vous publiez un photoglyphe. Dites-nous ce que c'est d'abord qu'un photoglyphe.
Alors en fait, un photoglyphe, c'est un moyen de toucher le grand public. Je me suis aperçu que lorsque je donnais mes cours au CNAM, je n'arrivais pas à toucher le grand public, je touchais quelques étudiants. Ensuite, j'ai fait un MOOC, je touchais 8000 étudiants, c'était mieux. Mais là, ce que je voulais, c'est toucher le grand public. Et la meilleure manière de toucher le grand public, c'est de dire des choses parfois difficiles, mais de le dire simplement, avec humour. Et donc, eh bien, c'est cet humour qui est dans les photoglyphes. C'est une photo décalée,
ouais.
Et sur lequel il y a des bulles avec des propos décalé aussi. Donc il y a un texte sérieux d'un côté et ce photoglyphe de l'autre.
Et ce produit, il faut rendre à celle qui l'a inventé finalement à César, qui appartient à César.
Donc c'est un auteur
consultante qui
a écrit plusieurs livres. Elle a écrit un roman, elle a écrit un livre sur le développement durable, elle a écrit un autre livre sur le tableau de bord des entreprises publiées
elle
chez Erol.
Karine Borras, c'est elle qui a inventé
les photoglyphes. Voilà.
Alors donc, on voit derrière vous, c'est le seul exemplaire papier, parce que
oui,
c'est quand même fait pour être sur plutôt sur Internet. D'ailleurs, on peut l'acheter sur Amazon.
Voilà.
Et donc, je pense que c'est voué quand même à un certain succès, parce que vous verrez, vous en verrez défiler pendant l'émission, et je vous en citerai un ou deux. C'est vraiment très percutant et très drôle. Alors, après la forme, Gérard Boivin, le fond. Vous partez, vous, d'un constat. L'envolée des dépenses de santé, qui paraît aujourd'hui inexorable, eh bien, elle est en grande partie due à ce qu'on peut appeler les dérèglements alimentaires.
Oui. En fait, le problème de fond, c'est que maintenant, nous avons accès à une quantité importante d'aliments, que ce soit donc avec du gras, du sucre, du sel, etc., etc. Et l'homme est fait pour réguler les manques d'aliments, ou du nutriments, mais pas les excès. Et donc, comme aujourd'hui, on a ces excès, eh bien, on arrive à tous ces problèmes de maladies chroniques, d'obésité, ce qui génère des dépenses de santé énormes. Voilà.
Alors, moi, j'avais l'impression qu'on n'avait jamais aussi bien mangé. Or, vous dites, non, c'est pas vrai, on mange de plus en plus mal. Et pourtant, il y a de moins en moins de gens qui meurent parce qu'ils ont absorbé des produits alimentaires pas bons, quoi.
Voilà. Alors, en fait, il faut différencier deux choses. Il y a la qualité sanitaire, c'est les aliments sont sains. Et la France est un des pays où on a la meilleure sécurité alimentaire, c'est clair. Par contre, il y a de l'autre côté la qualité nutritionnelle. Et là, la qualité nutritionnelle, c'est autre chose. C'est le fait qu'on mange trop de sucre simple, pas assez de sucre complexe, de glucides complexes, etc., etc. Donc vous avez la sûreté alimentaire en France, c'est top. La qualité nutritionnelle, en France, c'est peut-être là où c'est moins le pire. C'est le moins pire. Néanmoins, ça pose quand même des problèmes. Si on a, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, 70% de gens qui sont en pré-obésité, en France, on a 50, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est ça qui génère ces maladies chroniques et ces dépenses de santé.
Alors, on a envie de comprendre comment on en est arrivé là. Parce qu'en même temps, on a l'impression que sur notre alimentation, on n'a jamais été aussi informé. Mmh. Le problème, c'est que quand on vous lit, on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi mal informé, en fait.
Exactement. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, les gens ne prennent qu'une partie du problème. Quand on vous parle de nutrition, on parle de nutrition. Quand on vous parle de santé, on vous parle de santé. Quand on vous parle d'économie, on vous parle d'économie. En fait, la réalité, c'est cette économie de l'alimentation santé qu'il faut regrouper. Et lorsqu'on aborde le sujet avec cette vision globale, je dirais, on arrive à des choses beaucoup plus claires. Et en fait, si les dépenses de santé ont augmenté, de même dans les pays comme qui sont en difficulté économique comme la Grèce, les dépenses de santé augmentent entre 10 et 25%, alors que les dépenses alimentaires augmentent peu, parce que, on s'alimente mal et ensuite on prend des médicaments pour se guérir. Donc, on s'alimente mal et on prend des médocs, parce que c'est la manière de faire.
Alors, le point où on en est arrivé aujourd'hui, vous dites, c'est que, la première priorité, c'est le prix.
Oui, pour le consommateur.
Hein. Pour le consommateur. Oui. La deuxième priorité, c'est le plaisir. Et oui. La troisième priorité, c'est la santé. Oui. Comment on en est arrivé à cette inversion des priorités ?
Bien, en fait, il faut remonter, par exemple, à ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 75. Aux États-Unis, dans les années 75, tous les nutritionnistes américains disaient la cause des problèmes de santé sont liés au surpoids, qui elles-mêmes sont liées au gras. Et donc, on a dit, c'est le gras qui est cause de tout. Et on s'est aperçu, 40 ans après, que c'est pas ça. La cause de tous ces problèmes, c'est essentiellement l'excès de glucides simples. Aujourd'hui, on consomme aux États-Unis 3 fois plus de sucre simple que ce qu'il faudrait. En France, on a 2 fois. Donc, en fait, on s'est trompé. Les nutritionnistes se sont trompés. Et on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, c'est dur de corriger quand on a adopté des raisonnements comme celui-là. Et des comportements.
Alors, mais c'est pas la faute des nutritionnistes si la première priorité des consommateurs aujourd'hui, c'est d'acheter leur alimentation au prix le plus bas possible.
Alors, le fait, si vous avez le choix, vous, entre un camembert à 2 euros et le camembert à 3 euros, à même qualité, vous prenez lequel ?
Mais je sais pas qui sont à même qualité.
À qualité égale. À qualité égale.
Je prends le moins cher.
Et voilà. Eh bien, le consommateur raisonne comme ça. Donc, quelque part, à qualité égale, parce qu'il fait l'hypothèse que la qualité est égale.
Oui, mais c'est là le problème.
Et c'est là l'erreur. Oui. Exact.
C'est là
l'erreur, c'est que le consommateur, il intègre la qualité sanitaire, il dit mon produit est bon, je ne vais pas avoir de maladie, tout ça. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, mais il oublie la qualité nutritionnelle. Et ça, c'est plus difficile.
Bon, admettons, il y a une pression sur le pouvoir d'achat qui oblige à, qui incite à acheter le moins cher possible. Oui. Mais derrière, il y a l'industrie agroalimentaire qui, elle, fabrique ces produits. Mmh. Elle est aussi quand même responsable de cette situation.
Mais la responsabilité, je dirais, c'est un peu est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf? Je dirais, en fait, tout le monde est un peu responsable. Je pense qu'il faut qu'effectivement le consommateur revoie ses priorités et qu'il intègre la santé dans ses choix. Et il faut aussi que toute la chaîne alimentaire, jusqu'aux agriculteurs, reformule leurs produits. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des œufs qui ont assez peu de d'oméga 3, donc il va falloir modifier pas mal de choses. Donc toute la chaîne alimentaire est responsable. Et donc le jeu classique, c'est de dire c'est pas moi, c'est l'autre, ça ne marche plus.
Je cite une des bulles. Hein. Oui. Du photoglyphe, c'est une de mes préférées, c'est « On économise sur notre alimentation pour acheter Orange et Apple ».
Exactement.
Ouais, je la trouve très drôle. Oui, mais quand même, cette industrie agroalimentaire, vous dites, il y a le problème du coût. Bien manger, ça a un coût. Oui. Vous citez un chiffre, vous dites le coût des calories contenues dans les fruits et légumes, il est 3 à 4 fois plus cher que les calories contenues dans les produits gras et sucrés. Donc en gros, dans les produits, dans les pizzas surgelées que nous fournissent les industriels de l'agroalimentaire.
Oui, mais ils vous fournissent aussi des produits de bonne qualité. Le problème, c'est de savoir, vous avez le choix, vous pouvez prendre des pizzas dans le il y a qui sont faits avec des farines de bonne qualité, etc., etc. Puis vous avez des pizzas pas chères.
Et quand vous dites, quand vous faites le lien malbouffe, dépenses de santé, vous avez des chiffres en tête sur la responsabilité de la malbouffe dans l'augmentation des dépenses de santé ?
Oui, il est clair que aujourd'hui, je vais prendre un exemple. En France, vous avez 10 millions de personnes qui ont des maladies chroniques avec des affections longue durée. Ils sont remboursés à 100% par la Sécurité sociale. La première cause de ça, c'est le diabète. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont le diabète. Il y a plus d'un million de personnes qui ont de l'hypertension. Quelles sont les causes d'hypertension ? Exemple, c'est l'excès de sel. Donc, il est clair que tous ces excès, alors que ce que je vous disais en introduction, l'homme il est fait pour, il peut compenser des insuffisances. Par exemple, si on a une insuffisance de glucides, parce que le cerveau consomme beaucoup de glucides, eh bien les matières grasses se transforment en glucides, etc., etc. Mais on ne sait pas gérer les excès. Et cet excès se transforme en graisse.
Alors, quand on vous lit, bon, en gros, c'est assez clair. Le choix qu'on a aujourd'hui, c'est soit on mange sain, soit on est voué à se gaver de médicaments.
Exactement.
Finalement. Donc, alors, par quel bout on prend le problème ? Est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire des lois ? Est-ce qu'il faut faire des nouvelles taxes ? Est-ce qu'il faut faire de la pédagogie ?
Je crois que les taxes, on a montré que ça ne marchait pas vraiment. On l'a montré au Danemark en particulier. Ils ont mis des taxes sur la matière grasse, ça ne marchait pas.
Ça ne marchait pas, c'est-à-dire que les consommateurs n'étaient pas sensibles.
Il ne se passait rien. Donc, je crois que la seule manière de faire, par exemple en France, il y a une chose qui a été faite, qui est très bien, c'est le PNNS, les 5 fruits et légumes par jour. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas encore complètement, mais ça va dans le bon sens. Et je crois à des choses comme celle-là, comme le PNNS, où on dit des choses simples. Et la meilleure chose à faire, c'est effectivement une information objective et surtout une pédagogie. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre, qui est de faire de la pédagogie active, comme je dis.
Est-ce que l'industrie agroalimentaire peut faire meilleur pour la santé, pour pas plus cher ?
Est-ce qu'elle peut faire meilleur pour la santé, pour pas plus cher ? Oui. Oui, réponse oui, mais de la même manière, si le consommateur veut plus de... Je vais prendre un exemple. Quand vous allez dans un certain nombre de pays, vous avez des yaourts, il y a beaucoup de sucre. Mmh. Donc l'idéal, c'est diminuer le sucre, parce que l'excès de sucre est mauvais. Mais les consommateurs n'en veulent plus. Alors comment on fait dans ce cas-là ? Et toute la difficulté, elle est là. On est habitué à des goûts sucrés, on est habitué à des choses comme ça, et c'est ça qui pose problème. Il faut progressivement prendre conscience et se déshabituer. Et c'est pas quelque chose que l'on va faire d'un coup de baguette magique, mais ça va se faire dans le temps. Donc ça va se faire par une pédagogie active, ça va se faire par une meilleure information, parce que vous avez beaucoup d'alimenteurs tout au long de la chaîne, et c'est cela qui gêne. Entre les gourous des régimes, etc., etc., on perd notre temps. Il faut avoir une vraie pédagogie.
Et est-ce qu'on peut penser à des incitations, je sais pas moi, à des primes d'assurance moins élevées ou à des remboursements moins élevés pour les gens qui se comportent mal ou entre guillemets.
En fait, on a atteint, je dirais aujourd'hui une limite, c'est-à-dire que aujourd'hui on va pas pouvoir continuer comme on fait aujourd'hui. Il est clair que les prélèvements, je dirais, c'est fini. Donc les prélèvements, il faut passer à autre chose. Ensuite, il y a effectivement des assurances complémentaires. Mais là, tout le monde ne pourra peut-être pas le faire. Donc la seule solution, c'est d'attaquer à la cause. Et la cause, c'est effectivement plus de la moitié, enfin pas plus de la moitié, entre 30 et 60, ça dépend des auteurs, des problèmes de santé viennent des déséquilibres alimentaires. Donc il faut régler ces déséquilibres alimentaires qui sont liés à un comportement.
Merci Gérard Boivin, vous m'offrez une transition absolument parfaite vers le sujet que nous allons aborder maintenant avec Frédéric Bizard, les complémentaires santé. Vous savez que depuis le 1er janvier, les complémentaires santé, sont obligatoires pour tous les salariés et vous dites, en gros, c'est un scandale. Alors pas que ce soit obligatoire, mais on a franchi une nouvelle étape, Frédéric Bizard, dans un petit peu, les clés du camion de notre système de santé qu'on donne aux complémentaires santé. Juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même les différences, parce que c'est un monde assez complexe, hein. Ce monde des complémentaires santé, il y a qui dedans?
Alors, il y a les mutuelles qui représentent à peu près 54% du marché. Vous avez les assureurs privés qui représentent 28% du marché. Et les autres, ce sont les instituts de prévoyance qui sont principalement présents dans les entreprises.
Alors, vous dites, là, avec cette décision, on a franchi un nouveau pas qui montre que, grosso modo, finalement, on prolonge la tendance qui était à l'œuvre depuis 30 ans, qui consiste à donner les clés de notre protection sociale aux mutuelles, et que finalement, c'est les pouvoirs publics qui disent, nous on n'arrive pas à maîtriser les dépenses de santé. Allez, est-ce que les complémentaires, vous le secteur privé, débrouillez-vous, est-ce que vous allez y arriver?
Oui, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est assez paradoxal, parce que autant on va vers une étatisation de la gouvernance du système de santé, c'est-à-dire que l'État, via les agences régionales de santé, est en train de reprendre le pouvoir, ce qu'elle avait sur les hôpitaux publics, mais ce qu'elle n'avait pas sur le reste des offreurs de soins, et donc reprend le pouvoir. Et en parallèle, vous avez une privatisation de la gestion du risque, c'est-à-dire qu'en fait, on permet aux, avec les réseaux de soins, la loi Leroux de 2013, on permet aux organismes complémentaires de décider quel professionnel vous allez devoir consulter. Et in fine, c'est la logique du managed care américain, quel type de soins vous allez recevoir. Et ça, évidemment, c'est une dérive dont les États-Unis ont montré tous les risques en matière d'inégalité d'accès, en matière d'inflation des coûts. En effet, je dénonce cette évolution-là. D'autant plus que ce qui me gêne, c'est pas le fait qu'il y ait des financeurs privés. Il y a des collègues, il y a une partie de ceux qui réfléchissent qui disent que c'est un scandale qu'il y ait des opérateurs privés, que tout doit être public. C'est pas mon approche. La théorie économique ne dit pas qu'il doit y avoir essentiellement, pour que ça soit efficace et solidaire, qu'il doit y avoir uniquement un assureur public. Par contre, ce que dit la théorie économique, c'est que peu importe la nature des opérateurs, même si on sait qu'il faut un bloc public fort, mais il faut qu'il y ait une régulation très forte. Or, ce secteur de 35 milliards d'euros, extrêmement puissant en termes de lobbying, extrêmement puissant sur le plan financier, n'est absolument pas régulé, excepté le contrôle prudentiel que fait la CPR. Mais en tout cas, fait à peu près ce qu'ils veulent en matière de contrat. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui est capable de lire un tableau de garantie.
Alors justement, on va voir tous les problèmes que vous soulevez les uns après les autres. Premier problème, c'est justement cette opacité sur les contrats et sur la gestion aussi de ces complémentaires santé qui, rappelons-le, elles gèrent notre argent.
Elle gère notre argent et vous avez un secteur mutualiste qui a quand même pour principe la transparence, la responsabilité, le principe démocratique de un sociétaire, un assuré, une voix. Donc si je suis membre d'une mutuelle, si j'ai souscrit à une mutuelle, je suis en droit de savoir très exactement ce que vous allez faire de mes euros. Or, vous avez une opacité totale sur l'utilisation de cet argent. Vous avez 20%, soit 7 milliards d'euros, qui ne sert qu'à des frais de gestion et des frais de communication. 7 milliards d'euros, c'est une vraie difficulté. Quand vous êtes sur un secteur extrêmement contraint, en tout cas de plus en plus contraint sur le plan financier, vous êtes en droit de demander de la transparence. Ce secteur mutualiste, c'est un des trois secteurs, notamment vous avez une opacité sur ces frais d'administration. C'est un secteur beaucoup plus opaque, alors que c'est un secteur à but non lucratif, que le secteur à but lucratif.
Alors, il y a du non lucratif, mais il y a du privé aussi.
C'est tout privé. Mais vous avez du non lucratif dans le privé. Mais malheureusement, contrairement aux perceptions, je dirais ça change pas grand chose. Parce que ce que demande un assuré, c'est d'être bien remboursé, c'est d'avoir une visibilité sur l'utilisation de ses fonds, mais c'est in fine d'être bien ouvert.
L'esprit mutualiste, c'était pas ça.
L'esprit mutualiste, c'est ça, je l'explique, qui est encore une fois sur la liberté de choix. Comment permettre à ce que des mutuelles régulent les professionnels de santé, donc vous imposent quel type de professionnels de santé, vous allez voir, c'est complètement contraire aux principes fondamentaux de la liberté de choix. Bon, on va venir sur les autres. Ne pas assurer la transparence. Par exemple, vous n'avez pas une seule grosse mutuelle, parce qu'il y a deux mondes chez les mutuelles. Vous avez les petites et les moyennes mutuelles qui conservent un esprit mutualiste fort. Il y en a 200, 250. Et puis, vous avez un regroupement avec la création de mastodontes, d'empires, à l'échelle de ces mutuelles-là, qui se regroupent. Alors, on vous explique que c'est bien qu'ils se regroupent, sauf que ce que je constate, c'est que plus les mutuelles se regroupent, plus elles sont plus elles ont un chiffre d'affaires important, plus les frais de gestion augmentent, avec, encore une fois, une opacité de l'utilisation de ces frais de gestion.
Autre problème, bon, c'est vrai que quand on a une mutuelle comme ça, on se dit, oh, ça y est, on est bien protégé, etc. Or, vous dites, ce côté rassurant, il est faux, parce que les remboursements ne sont pas adaptés aux besoins de couverture des risques d'aujourd'hui.
Alors ça, c'est un domaine un peu complexe sur le financement des soins.
Vous prenez des exemples simples, les prothèses dentaires, par exemple.
Les prothèses dentaires. Il faut voir où est le risque par rapport à une prothèse dentaire. Vous avez une prothèse dentaire, c'est un prix moyen de 750 euros en France, où vous avez 107 euros de remboursé par la Sécurité sociale. Ouais. Et c'est 70%, mais la base de remboursement est de 107 euros. Est-ce que le risque, c'est ce que ne rembourse pas ce qu'on appelle le ticket modérateur, donc les 30% de 107 euros, ou est-ce que c'est la différence entre 107 euros et 750 euros? Tout le monde a compris où était le risque. Or, les complémentaires santé remboursent pour 15 milliards d'euros sur les 26 milliards de remboursement, c'est-à-dire 53% de leur remboursement, se concentrent sur un non-risque, qui est le ticket modérateur. Parce que c'est extrêmement lucratif, si vous voulez. Ce sont des flux financiers que vous gérez, qui sont sans risque parce qu'ils sont encadrés. Un ticket modérateur, c'est encadré. Et donc, en fait, c'est pas ça qu'elles doivent rembourser. C'est la partie libre des honoraires chez les médecins, chez les dentistes, la partie libre des tarifs chez les opticiens. Or, elles se désengagent de cette partie libre des honoraires avec la complicité des pouvoirs publics, puisqu'il y a eu un décret en novembre 2014 qui a plafonné le remboursement des contrats responsables. C'est 96% des contrats sur le marché. Aujourd'hui, un contrat responsable, c'est un contrat qui rembourse peu de cette partie libre des honoraires, c'est-à-dire du vrai risque. Donc, en fait, vous êtes assuré par rapport à un non-risque. Et la généralisation des contrats collectifs en est un exemple parfait, puisque c'est une généralisation par le bas. Vous aviez 4 millions d'assurés qui n'avaient pas de contrat collectif. Donc maintenant, ces 4 millions vont avoir un contrat collectif. Quel contrat collectif est-ce qu'ils vont avoir? Ce qu'on appelle un contrat socle, qui rembourse principalement les tickets modérateurs, donc qui ne sert à rien. Ce qui va obliger ces salariés, pour ceux qui en ont besoin, mais comme on a mis dans la tête, malheureusement, de tous les Français qu'ils avaient absolument besoin d'une complémentaire santé, puisque vous avez 95% de la population. Et là, faudrait peut-être, je reviendrai sur pourquoi est-ce que je considère que tous les Français n'ont pas besoin. C'est que vous avez une très forte disparité des dépenses de santé. Il faut savoir que 70% des dépenses de santé sont portées par simplement 15% de ceux qui souffrent d'affections de longue durée. Les 10 millions de Français dont parlait monsieur Boivin. Et vous avez 60% de la population qui est responsable de
donc,
10%.
Donc, vous avez l'idée de généraliser la mutuelle,
c'est une idée. D'abord, c'est une idée stupide de le faire sur les contrats collectifs, puisque ce sont des actifs et c'est ceux qui ont le moins besoin de cette complémentaire santé. Donc, vous rendez obligatoire un contrat qui ne sert à rien, parce que le contrat socle ne sert à rien. Et en fait, vous allez dégrader toute la qualité des contrats, puisque demain, les entreprises vont comprendre, des grandes entreprises comme Bell, qui avaient probablement des contrats collectifs très généreux, vont comprendre que finalement, c'est beaucoup plus intéressant d'aller vers le contrat socle. Ça vous coûte moins cher. Et l'organisme complémentaire va inciter à le faire, puisque derrière, il va vous proposer des surcomplémentaires au prix fort, qui vont donc... Tout ça, le grand perdant, c'est l'assuré.
Alors, on comprend bien. Alors, les réseaux de soins, l'idée, c'est que les mutuelles peuvent imposer aux usagers des professionnels de leur choix. Et là, vous dites, en gros, ça ne marche nulle part, et c'est une idée qu'il faut abandonner.
Ah bah, d'abord, ça existe depuis plusieurs décennies aux États-Unis, où j'ai pas mal travaillé, je connais bien le système. Donc, on a vu un petit peu toutes les conséquences en matière de creusement des inégalités par rapport à l'accès aux soins, en matière d'inflation des coûts, que ça a pu. Alors, ce que c'est, pour expliquer en 30 secondes, hein, un réseau de soins... C'est un contrat, une convention qui est signée entre un assureur et un professionnel de santé, basé sur trois critères. Sur le tarif, le prix, donc à respecter, sur l'apport de volume, l'assureur s'engage à apporter un volume de patients, et sur le respect d'une charte de qualité, de la qualité. Or, en santé, pourquoi ça marche pas? Parce que, surtout quand vous êtes sur un marché mature, aujourd'hui sur un système de santé qui est pas, qui est mature comme le système de santé français, c'est pas en apportant, le bon professionnel de santé, c'est pas en lui apportant plus de clientèle qui va pouvoir maintenir sa qualité et baisser son prix. Ça marche peut-être avec les voitures, ça marche peut-être, mais ça ne marche pas en matière de santé. Un prix bas, forcément, est un frein à l'innovation. En multipliant les volumes, on sait déjà que les médecins, par exemple, ont un véritable problème, c'est que pour avoir un niveau de revenu suffisant et pour payer leurs charges, ils doivent multiplier les volumes. Donc ça va dans le sens contraire de ce qu'il faut faire.
Justement, ce qu'on comprend à la lecture de votre livre, Frédéric Bizard, c'est qu'en fait, on nous donne l'impression qu'on veut essayer de sauver notre système de protection sociale, sa philosophie, et qu'en fait, on risque comme ça d'en tuer l'esprit. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on fait?
Alors, il faut repenser repenser le système de financement de façon pragmatique, c'est-à-dire pas à partir d'une feuille blanche, mais à partir de ce que l'on a et en fonction des problèmes qu'il y a à résoudre. Je pense que la seule évolution à la fois faisable et efficace, c'est d'abord de passer d'un double paiement, le fait d'avoir deux payeurs pour un même soin, ce qui est le cas pour tous les Français, à l'exception des 10 millions de Français qui souffrent d'affections de longue durée, de passer à un payeur unique par type de soins. Donc il faut différencier un panier de soins, je dirais collectif, qui soit pris en charge par l'assurance maladie, d'un panier de soins individuel qui sera pris en charge par des assureurs privés qui vont devenir non plus complémentaires, mais qui vont devenir une assurance santé universelle supplémentaire. Il faut mettre, vous aurez deux marchés en fait privés, un marché de ce contrat avec un contrat homogène au standard qui, de mon point de vue, doit être défini par la loi. C'est-à-dire qu'il faut encadrer ce qui est absolument nécessaire et ce qui sera pris en charge par des assureurs privés avec des garanties qui soient les mêmes. Seul le prix sera différencié. Et ensuite, il faut une agence de contrôle et de régulation de ce secteur, 35 milliards d'euros. C'est une délégation de services publics qui doit être encadrée nettement plus que ça ne l'est aujourd'hui.
Merci beaucoup, messieurs. On termine la première partie de cette émission. Merci Gérard Boivin, merci Frédéric Bizard. On se retrouve tout de suite avec nos critiques.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, Alternatives économiques et Alter Eco Plus. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, le critique attitré de la Société d'économie politique et le directeur de la revue sociétale. Alors, on commence, messieurs, cette semaine avec votre choix. Jean-Marc, une biographie qu'on attendait, celle d'un monument de l'économie française, Jacques Rueff. Ça s'appelle Un libéral français, c'est écrit par Gérard Minard et c'est publié chez Odile Jacob.
Oui, c'est la première biographie de Jacques Rueff, en fait, peut-être la seconde, parce qu'il avait écrit son autobiographie, d'ailleurs qu'il avait appelé Autobiographie et pas Mémoire, et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur s'est assez peu inspiré de ce que racontait Rueff sur lui-même, c'est plutôt une biographie intellectuelle qu'une biographie du personnage. C'est peut-être un peu une des faiblesses du livre, on apprend par exemple, incidemment, il y a une phrase où il dit que Madame Rueff est en train de taper à la machine une des œuvres très importantes de Jacques Rueff, l'ordre social, et puis entre parenthèses dit à ce propos il s'est marié effectivement bon, et puis à la fin on apprend ah oui il a été marié mais il a eu deux filles aussi, donc voilà. Bon, donc le personnage dans sa vie quotidienne est assez absent. Ce qui est important, c'est véritablement une biographie intellectuelle. Donc il est né en 1896, il est polytechnicien, inspecteur des finances, et au début l'auteur explique bien qu'il est influencé par trois personnages considérables: son professeur d'économie à l'école polytechnique qui est Clément Colson, son professeur de physique et qui est Paul Painlevé, qui est aussi un homme politique important. Alors c'est un très grand physicien et c'est un homme politique très important de la Troisième République. Il est président du Conseil, président de l'Assemblée. Et puis la référence intellectuelle qui est Valras. Et à partir de là, il construit une structure intellectuelle axée sur trois idées forces. La première, c'est que la concurrence, le mécanisme des prix, est le régulateur efficace de l'économie. La deuxième idée, c'est que en fait, on échange ce qu'ils appellent des droits. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de conforter les droits, le droit de propriété, mais sur chaque bien qu'on échange, on a une sorte de droit de propriété qui est acquis par le travail, et donc y compris quand on achète des services publics, il faut qu'il y ait un droit derrière, et donc la conséquence de ça, c'est qu'il ne faut pas de déséquilibre budgétaire, pas de déficit budgétaire. C'est-à-dire, l'État existe, il a une mission, mais il ne doit surtout pas être en déficit. Et puis, la troisième idée force, qui est une méthode, c'est de considérer que l'économie doit chercher à être aussi scientifique que la physique, et donc elle doit en permanence se caler sur l'organisation de la physique. À partir de là, il y a une multitude de livres qui vont paraître, d'actions, il va remplir des missions très importantes. À la fin de sa vie, il va concentrer sa réflexion sur l'aspect monétaire et notamment sur la défense de l'étalon or, c'est-à-dire sur la lutte contre l'inflation au travers de l'étalon or. Alors, je pense que c'est un livre important parce que le personnage de Jacques Rueff est un personnage considérable qui a été un peu oublié parce qu'il a été pendant toute sa vie un adversaire de Keynes, et donc la domination intellectuelle du keynésianisme dans les années 50-60 l'a un peu effacé. Je pense que c'est un livre important parce que ça montre aussi qu'il y a une philosophie économique qui dépasse simplement l'aspect calcul. C'est-à-dire qu'on peut aborder l'économie avec une vision, le libéralisme avec une vision intégrale. Je pense surtout que c'est un appel à rééditer et à relire Jacques Rueff, parce que je pense que c'est effectivement un personnage qui, maintenant que le keynésianisme est sur son déclin, c'est du moins comme ça que je l'interprète, il est bon de retrouver les vrais penseurs de ce 20e siècle.
Allez pas nous énerver, notre Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel. Christian.
Bonne année, Jean-Marc.
Qu'est-ce que vous pensez de ce livre?
Bon, moi, j'ai vraiment été déçu et trois fois déçu. Jean-Marc l'a souligné, c'est vrai que quand on a une biographie, on aime bien avoir la biographie intellectuelle, mais aussi la biographie personnelle. Et là, on a très peu de choses. Mais même sur la biographie intellectuelle, parce que l'auteur a quand même s'est plongé dans tout le travail intellectuel de Jacques Rueff. On pense souvent qu'il a simplement
travaillé. Gérard Minard, d'ailleurs.
Qu'il a simplement travaillé sur les talons hors, mais en fait, il a beaucoup travaillé Jacques Rueff sur beaucoup de sujets.
Gérard Minard, pour préciser, c'est quelqu'un qui a fait une carrière de journaliste et qui s'est passionné à la Voix du Nord, qui s'est passionné pour les penseurs libéraux, et donc il a publié déjà des monographies sur des penseurs libéraux, et à titre personnel, il est très très impliqué dans la réflexion sur l'ordolibéralisme, et donc c'est pour ça que la préface d'ailleurs est faite par Wolfgang Schäuble, qui est un Allemand, donc qui est un des héritiers de l'ordolibéralisme.
D'accord, Christian.
Donc hormis le manque de d'informations personnelles, il y a quand même un gros travail, il y avait un gros matériau intellectuel, et Gérard Minard s'est plongé dedans, ça c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du livre. Mais il est décevant, pourquoi? D'abord parce que le livre a été écrit sur une seule table, qui est l'autel de la chapelle consacrée à Saint Jacques Rueff. Hein, c'est vraiment le dieu des dieux. Il est vraiment très tout ce qui fait est important. De l'âge de 13 ans, on commence à un petit peu avoir ce carnet de notes jusqu'à sa mort. C'est quelqu'un qui n'a absolument fait aucune erreur, qui ne s'est jamais trompé, qui a jamais fait un pas de travers, qui était gentil avec tout le monde, méchant avec tout le monde, méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. Bref, c'est quelqu'un de lisse, de froid, en tout cas qui ressort lisse et froid, parce que comme on n'a rien sur l'homme vraiment, on a juste une image idéalisée, un peu puéril, il y a les héros et les vilains, et Jacques Rueff fait partie des héros. Et c'est juste une machine à penser, de fait. Et une machine à penser quoi? Deuxième déception. Pourquoi est-ce que Jacques Rueff, en fait, a complètement disparu? Pourquoi plus personne ne lit Jacques Rueff? Pourquoi on ne trouve plus les livres de Jacques Rueff? Pourquoi? Parce que on comprend du livre que c'est un libéral banal. Vraiment un libéral banal. Qui pensait que la loi de l'offre et de la demande, ça détermine le prix? Enfin, je crois que même Jean-Marc, il ne croit plus à ça. Qui nous dit simplement que dès qu'il y a un centime de déficit budgétaire, à ce moment-là, c'est le déclin de la civilisation qui commence. Bref, c'est un libéral banal.
Je comprends pourquoi il y a une préface de Wolfgang Schäuble.
Oui, tout à fait. Ça va dans cette. Mais on n'est pas dans la réflexion ordolibérale de comment est l'association entre le marché et l'État. C'est vraiment un libéral classique. Et je pense que, en tout cas, il ressort comme ça du livre. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne lit plus Jacques Rueff. L'auteur nous fait croire qu'il y a eu deux grands économistes au XXe siècle, Keynes et Rueff, et que Rueff a gagné. Non, tout le monde lit Keynes et plus personne ne lit Jacques Rueff. Mais je pense que, tel qu'il ressort du livre en tout cas, parce que moi, je n'ai pas lu beaucoup de Rueff, eh bien, c'est un libéral banal. Troisième déception, dès les premières pages, on vous dit que si vous n'adhérez pas à Jacques Rueff et au libéralisme, vous êtes le dernier des idiots, et je reste poli. Donc, c'est un livre qui va faire plaisir à la secte des adorateurs de Jacques Rueff. Ils ont gagné un nouvel évangile. Par contre, pour les autres, c'est dommage, parce que tout le travail intellectuel qui a été fait aurait pu permettre de s'ouvrir sur cet auteur. On ne partage pas ses idées, ce n'est pas grave, on va chercher. Là, on nous dit que si vous n'êtes pas un adorateur entier, vous êtes le dernier des idiots, donc ça ferme le livre à un public plus important.
Allez, Christian, vous gardez la main, vous avez choisi, vous, de donner un coup de projecteur sur une maison d'édition qui publie deux petits opus que vous avez choisi de mettre en
Fakir
évidence.
Voilà, Fakir Édition, alors là, moi, c'est des livres tout petits, 4 euros chacun, le style, attention pour les puristes, hein, est léger, voire trivial pour quelques-uns, c'est tout petit, ça va très très vite. Le premier, ça présente un entretien avec Jean Gadrel, penseur de la croissance, qui nous dit que la croissance est devenue une croyance économique. Malheureusement, le gâteau, on a l'impression qu'il doit toujours grossir, mais il est plein de substances toxiques et il nous empoisonne, et il empoisonne la terre. Et donc, il faut absolument passer à la transition écologique, qui à la fois est tout autant un problème politique et social qu'un problème économique. Et puis, le deuxième petit livre, c'est celui qui est derrière moi, de Richard Wilkinson, L'égalité, c'est la santé. Ça, c'est plus intéressant.
Et l'amour aussi.
Et l'amour aussi. Ça, c'est des éditions Fakir, avec leurs petites blagues et leurs dessins bien illustrés. C'est plus intéressant parce que M. Wilkinson, c'est un épidémiologiste. Il a publié un énorme livre qui essaie de démontrer quoi? Que les problèmes de santé sont liés aux problèmes d'inégalité. Plus vous êtes dans une société inégalitaire, plus vous avez de problèmes d'obésité, plus vous avez de problèmes d'anxiété, moins les gens se font confiance, etc. etc. et plus moins les économies sont innovantes, plus les gens vont en prison, etc. etc. Il nous le montre dans son gros livre avec je ne sais plus combien de graphiques. Dans ce tout petit bouquin, il arrive à nous recaser plus de 20 graphiques qui sont tout à fait éclairants et qui nous font le lien entre politique de santé et politique de lutte contre les inégalités. C'est très facile à lire, c'est très court, c'est pas cher et ça
c'est le grand mérite de cette cette petite collection, c'est que c'est très accessible, à la différence très du livre sur EuroF. Jean-Marc Daniel, alors ces petits bouquins, ça vous a plu?
Oui, mais Christian a parlé de secte, là aussi on est dans une démarche un peu sectaire, c'est la secte des adorateurs du gauchisme des années 70. Oh. Et donc, là, on est quand même un peu dans la caricature. Il y a de bonnes choses, et je ne suis pas d'accord avec la hiérarchie qui a été faite par Christian sur les deux livres, je trouve que celui de Gadret est plus intéressant. Et alors, à un moment donné, d'ailleurs, il y a deux choses qui sont intéressantes dans le livre. Il dit, John Stuart Mill, pour lequel il a une très grande admiration, avait repéré dès 1848 qu'il fallait commencer à distribuer et arrêter de produire. J'ai envie de lui dire, écoutez, heureusement qu'on a continué à produire, et on a continué à faire de la croissance après 1848. Parce que si on vivait comme en 1848, comme à l'époque de Stuart Mill, si on avait renoncé à la croissance dès 1848, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient une vie beaucoup moins agréable que maintenant. Et puis à un moment donné, c'est des interviews, et l'intervieweur lui dit, vous savez, ces idées que vous avez qui sont plutôt sympathiques, c'est des idées de petits bourgeois, c'est pour nous, mais les gens, le vrai peuple, il adhère pas à ces idées. Et je crois que c'est un peu le problème de ce genre d'idées, si on le voit aux élections, parce que Gadret parle beaucoup des débats au sein du Front de Gauche et tout ça, et tout le monde s'en fout des débats au sein du Front de Gauche, parce que
Et vous trouvez pas que Wilkinson est un peu plus original?
Non, mais il y a des choses assez surprenantes dans le Wilkinson. Bon, il y a effectivement le prisme de, c'est tout est lié aux inégalités. Alors quand il dit par exemple que les meurtres aux États-Unis prouvent que la société c'est lié aux inégalités, c'est aussi lié au fait que les gens ont des armes. En fait, quand il y a aussi des lois sur les armes, il y a des moments où il y a des choses où je me dis mais est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disent? À un moment donné, on lui dit, est-ce que on lui parle de Bernard Arnault et on lui dit comment est-ce que vous expliquez que quelqu'un comme Bernard Arnault qui est immensément riche puisse avoir un comportement relativement égoïste? Et il dit mais moi j'avais une tante qui par hasard était prisonnière des Japonais, qui était très très riche, et je peux vous dire qu'après son retour d'un camp de concentration japonais pendant la guerre, elle a eu une vision autre de la vie. Et quand même l'intervieweur lui dit mais vous allez pas nous dire quand même qu'il faut envoyer tous les gens en camp de concentration japonais des années 40 pour les calmer? Et il répond pas vraiment. Et donc, c'est ça qui t'a fait...
Ce sont les à côté du livre, ça. Vous focalisez sur les petites choses, c'est pas l'essentiel du livre.
C'est l'état d'esprit du livre. C'est-à-dire, vous avez des informations, vous avez des débats qui peuvent se faire, mais vous avez une présentation, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une démarche sectaire, où, par certains côtés, ça pourrait être inquiétant si ça restait pas marginal. RUF était marginaliste, et là, c'est quand même assez marginal.
Bon, eh bien, vous avez compris, c'était une semaine marquée par des choix clivants. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la dernière partie de cette librairie de l'écho. Nos critiques sont toujours là et nos chroniqueurs nous ont rejoints. Bonjour Benaoud Abdelhaim. Vous nous présenterez dans quelques instants votre sélection de livres d'ailleurs. Mais tout de suite, on retrouve notre bibliothécaire Stéphanie Collo qui a choisi de nous parler bourse, mais de la bourse comme on en parlait dans les années 50.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'avant.
Les bourses connaissent un début d'année tumultueux, en cause les difficultés de la Chine, les tensions diplomatiques, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ou encore les prix du pétrole qui ne cessent de baisser. Alors pour prendre un peu de recul et pour remettre ces soubresauts en perspective, je vous propose de vous plonger dans l'histoire des marchés financiers avec le livre d'Alfred Collin, La prodigieuse histoire de la bourse. Alfred Collin est né en 1902, c'est un homme de lettres, grand amateur de musique et de littérature. Il a écrit la biographie de nombreux artistes, mais c'est aussi un agent de change et c'est cette expérience qu'il mettra à profit pour écrire cette histoire très scénarisée des marchés financiers et de ses acteurs. La prodigieuse histoire de la bourse est avant tout une enquête approfondie et détaillée sur l'univers de la bourse du Moyen-Âge à aujourd'hui. Et l'on apprend notamment qu'au XIVe siècle, les agents de change avaient pour seul outil de travail un banc sur lequel ils s'asseyaient pour compter. Et quand ils manquaient à leurs engagements, leur banc était détruit, rompu. Banco Rotto en italien, qui a donné banqueroute. On apprend aussi que Lyon a été la première place boursière du Royaume de France en 1540, bien avant Toulouse, Bordeaux, Marseille, puis Paris en 1724. À l'aube de la Révolution française, rappelle l'auteur, 17 valeurs sont officiellement cotées à Paris, dont 14 fonds d'État. Les trois valeurs entreprises sont la Compagnie des Indes, les caisses d'escompte et les eaux de Paris. Autre anecdote, en juin 1940, après la signature de l'armistice à Retonde, les agents de change se demandent où rouvrir la bourse. Vichy, Clermont-Ferrand, plusieurs villes sont envisagées, mais le syndicat des agents de change ne conçoit la bourse qu'à Paris. Une caravane de 3-4 automobiles se met alors en route vers la place parisienne et les marchés redémarrent le 30 juillet 1940. Vous l'aurez compris, la prodigieuse histoire de la bourse est un livre truffé de petites histoires qui nous permettent de mieux comprendre la grande.
Merci Stéphanie Collo et tout de suite on retrouve Benaouda Abdelhaïm, embarquement immédiat pour des destinations dont il est le seul à maîtriser parfaitement la géographie.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Benaouda, on commence cette semaine par le pays qui concentre, j'allais dire, beaucoup d'inquiétudes en ce début d'année, c'est l'Arabie Saoudite.
Oui, et de grandes nouveautés. On vient d'apprendre que l'Arabie Saoudite envisage d'introduire en bourse l'Aramco, sa compagnie nationale pétrolière, alors que les cours sont en train de s'effondrer. Comment le chef de file de l'OPEP, incontesté, incontestable, peut encore s'en sortir pour son budget 2016? C'est intéressant de voir comment des Saoudiens en Arabie Saoudite y répondent et en langue arabe. Ceux de la Société de la Gestion d'Actifs Jadwa Riyad viennent de rédiger une étude au sujet des comptes publics saoudien, c'est paru fin décembre. C'est un récit vraiment froid et détaillé d'un écroulement des recettes publiques. Fahad El Tourki et ses collègues expliquent que pour équilibrer les comptes, il faut un baril de Brent à $90. Ça veut dire, si on est loin du compte, on est 50-55 dollars plus bas pour commencer l'année. Les auteurs visent quand même 47 dollars en moyenne sur l'exercice. Dans ces conditions, le déficit budgétaire avec 47 dollars le baril avoisinerait quand même les 13%. C'est vous dire les besoins de financement saoudiens. Alors, à ceux qui prédisent un écroulement financier de l'Arabie Saoudite, eux, Jadwa dit, c'est impossible. Ils montrent dans leur document comment les réserves de change de près de 630 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite peuvent tout à fait couvrir les besoins financiers du pays encore à ce rythme-là pendant plusieurs années. Quoi qu'il advienne, c'est ce qu'ils expliquent aussi.
Et ça, c'est important, Benaouda, parce que ça veut dire que l'Arabie Saoudite peut quand même supporter des prix bas et ça peut même être encore une stratégie, finalement, pendant encore quelques années.
C'est exactement ce qu'ils expliquent. En même temps, ils disent qu'il va falloir effectuer des choix budgétaires radicaux. Il y a deux postes auxquels on ne touche absolument pas, c'est la défense, la sécurité intérieure, 25% au total du budget, et l'éducation, formation, 23%. Pour tout le reste, notamment les subventions énergétiques, ils montrent comment on va tailler à la serpe, sachant que ça représente près de 10% du produit intérieur brut saoudien et que ça ne peut pas durer de la sorte. Par exemple, les factures d'électricité sont en moyenne, par rapport aux prix internationaux, c'est ce qu'on voit dans cette étude, 60% inférieurs. Ils disent qu'à un moment donné, il va falloir choisir ce qu'on veut, et apparemment, ils ont bien compris que le gouvernement saoudien a choisi de tailler plutôt dans les subventions que dans l'armée ou la police.
Oui, et ça va changer beaucoup de choses aussi dans le quotidien des Saoudiens. On part pour le Royaume-Uni, Benaouda.
Oui, la participation à l'État-providence, comparaison au Royaume-Uni, c'est le gouvernement britannique qui veut que les travailleurs européens qui viennent s'installer au Royaume-Uni soient contraints d'attendre 4 ans, avant de pouvoir prétendre aux prestations sociales. C'est contraire au principe de libre circulation des travailleurs. Ça a été dit, redit par les autres Européens. Mais le Premier ministre David Cameron n'en démord pas. Il entend arracher de ses homologues le mois prochain au sommet européen un accord de ce point de vue-là. La question est vraiment omniprésente dans le débat public britannique, comme nulle part ailleurs en Europe.
Mais Benaouda, il me semblait qu'il y avait des travaux qui avaient montré que la contribution des immigrés aux finances publiques était globalement positive.
Alors, ce sont deux chercheurs de l'Université de Southampton qui ont repris les enquêtes travail du ministère du Travail pour 2012 et 2013 afin de vérifier si les ressortissants d'Europe centrale et d'Europe centrale et orientale réclament plus ou moins de prestations sociales que ceux de... Bon, La réponse est claire et nette. Ils réclament moins. D'abord parce qu'ils sont plus jeunes. Et alors, ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est qu'elle est extrêmement poussée. Alors, il y a les classes d'âge, les niveaux d'éducation, situation familiale, couleur de peau, ce qui est inenvisageable dans les études statistiques françaises. Ah ouais. Enfin, voilà, région de résidence. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que parmi les Européens de cette nouvelle Europe, ce sont les Bulgares et les Roumains qui réclament le moins d'allocations sociales, le moins d'allocations chômage. Donc ça va totalement à l'encontre de ce que dit finalement David Cameron. Bah oui. Mais il faut bien dire que, étant donné l'état de tension de ce point de vue-là en Grande-Bretagne, les avis de deux professeurs d'université ne valent pas grand-chose. On ne tiendra pas compte de ces arguments.
Il n'y a pas des voix politiques pour porter ces messages-là.
Ah, pour l'instant, on ne les entend vraiment pas.
Quand on voit l'état du Parti travailliste,
voilà,
remarquez.
Qui est occupé plutôt à se réinventer.
Oui,
gentiment.
Gentiment, vu les défections récentes et multiples dans les rangs de ce parti. La Colombie, pour terminer, Yann Aoudin.
On voit, exercice pratique, comment le resserrement de la politique monétaire des États-Unis contribue aussi à la chute des devises latino-américaines. C'est très surprenant, en 18 mois, le peso colombien a perdu 70% de sa valeur face au dollar. Il n'y a que le Venezuela et son bolivar qui fassent pire en Amérique latine, alors qu'on pensait que la Colombie avait le vent en poupe. Alors, la solution, est-ce que c'est de dollariser l'économie colombienne pour résoudre les déséquilibres macroéconomiques de ce pays émergent, autrement dit faire du billet vert, la monnaie nationale. Et alors, il y a un économiste qui s'appelle Germán Morales qui publie dans une revue universitaire colombienne. Il dit que... ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucune acrimonie anti-gringo, ce qui est quand même notable. Ce qui est quand même notable. Et il a regardé ce que ça a donné en Équateur, ce que ça a donné au Salvador, et il dit que ça n'a rien de concluant. Et il considère que la dollarisation ne résoudrait pas les maux véritables du pays à l'exportation, c'est-à-dire l'instabilité des cours des matières premières, la décrue de la demande mondiale et le niveau de compétence dans la production nationale colombienne. Et il raconte, c'est très intéressant, un souvenir d'enfance. Il raconte comment un oncle venu d'Amérique lui offre un billet de $10, il était enfant bien sûr, et un pistolet laser. Et il raconte comment lui, petit Herman, est allé voir ses copains pour montrer d'abord le billet de $10 avant le pistolet. Ce qui montre que même lui est fasciné par le billet vert américain.
Merci beaucoup Ben Aouda. Allez, on se retrouve pour nos choix ultimes, ceux qu'on aurait regretté de ne pas vous présenter.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
On commence avec vous, Christian Chavagneux. Quel est votre ultime choix pour cette émission ?
Trois petits choix, parce qu'on est cette semaine, un an après l'assassinat de Bernard Maris, notre ancien collègue économiste et journaliste. Et donc, il y a trois petites choses qui sont sorties. D'abord, un livre qui s'appelle « Pour saluer Bernard Maris » chez Flammarion. Une petite dizaine d'auteurs, plutôt des amis de Bernard Maris, plutôt des écrivains d'ailleurs. Plutôt, il y a juste Jacques Sapir, pardon, qui est un économiste et qui, bien évidemment, parle surtout de Jacques Sapir plutôt que de Bernard Maris et qui simplement nous dit à un moment donné, bien évidemment, Bernard Maris, à la fin de sa carrière... nous a dit qu'il vous fallait sortir de l'euro et donc c'était un grand économiste. Mais à part ça, l'essentiel des contributions porte plutôt sur des amis romanciers. On nous dit que Bernard était un romancier clandestin. C'est de ces gens qui écrivent des romans mais qui sont tellement, dont la figure publique est tellement ailleurs qu'on s'aperçoit pas qu'ils écrivent
des romans. C'est un livre qui parle de Bernard Maris, l'homme
et l'écrivain, voilà. Pas vraiment de l'économiste. Voilà, alors il y a un film qui passe en ce moment, je m'excuse, sur des chaînes concurrentes, hein, Public Sénat et France 3 Île-de-France. France ce week-end même, qui a été réalisé par la dernière compagne de Bernard Maris et par Hélène Risser, une journaliste, et qui s'appelle À la recherche de Bernard Maris, l'anti-économiste. Et là, c'est pareil, c'est sur l'homme, sur les contradictions de l'homme. On voit Bernard Maris qui critique les riches d'un côté, qui de l'autre côté, qui par un mariage social, se retrouve à habiter dans le 16e arrondissement avec des tableaux de maître à la maison, participe au conseil général de la Banque de France et joue au golf. Et puis enfin, si on est intéressé par le Bernard Maris économiste, dans les salles, on peut toujours voir Oncle Bernard, l'anti-leçon d'économie. Là, c'est une interview, plutôt les rushs d'interviews en noir et blanc, d'une interview réalisée le 8 mars 2000 dans les locaux de Charlie Hebdo. Et là, c'est le Bernard Maris, je pense, tel qu'il va rester dans les mémoires. Le critique du capitalisme, de l'entreprise, des inégalités, etc. C'est Bernard Maris, l'économiste critique de la pensée économique dominante. Avec ces trois-là, on a vraiment un bel hommage.
Eh bien, on retrouvera avec plaisir Bernard Maris. Jean-Marc Daniel, votre choix.
Alors moi, je m'associe quand même à l'hommage fait par Christian pour Bernard Maris. Je pense que tout le monde regrette son tragique.
Il nous manque, assurément.
assurément. Alors, il y a un autre personnage à qui on rend hommage cette semaine, c'est François Mitterrand, qui est mort en janvier 1996. Et donc, j'aurais pu choisir un livre de Frédéric Le Play, puisque Frédéric Le Play était économiste et François Mitterrand est mort rue Frédéric Le Play, sauf que c'est très difficile à trouver. À part en bibliothèque, on n'aurait édité pas
Frédéric
les livres
Le Play de Frédéric. Était un économiste.
Un très grand économiste du 19e siècle, mais alors.
Pardonnez mon
ignorance. Oui, mais c'est excusable parce qu'alors, pour trouver un livre de Frédéric Le Play, maintenant, il faut aller dans les bibliothèques. Donc, j'ai choisi le dictionnaire amoureux de François Mitterrand par Jack Lang. Quand on connaît Jack Lang, on voit bien que le mot amoureux n'est pas abusif. C'est un long panégyrique de François Mitterrand. Alors,
pourquoi ce livre-là? Parce qu'il y a flopée de livres qui sortent.
Justement, on pourrait penser qu'il est caricatural et pas du tout. Il y a beaucoup de points d'entrée. Hein. C'est un dictionnaire, donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Ça commence par Algérie, guerre d'Algérie, et d'emblée, Jack Lang prend un peu de recul par rapport à l'attitude qu'a pu avoir François Mitterrand, même s'il la justifie. Et puis il y a quelques passages qui sont délicieux. Il y a tournant pour tournant de la rigueur, où il dit encore finalement c'était une parenthèse. Bon, apparemment elle est toujours pas fermée. Et je recommande alors l'article Rocard Michel. Alors là, c'est on sent bien que là c'est pas amoureux qui caractérise cet article. C'est extrêmement bien vu. En plus, c'est très méchant, mais assez bien vu.
Assez méchant, mais c'est bien vu.
Oui.
Bon. Eh ben, écoutez, moi, je suis désolé, je vais vous parler de gros sous. J'ai choisi Security Analysis, analyse et évaluation financière des valeurs mobilières. C'est la véritable bible des investisseurs. Est-ce que vous savez ce que Warren Buffett dit de ce livre, chers amis? Il dit, si je devais conserver deux livres dans ma bibliothèque, celui-là serait l'un des deux. Alors évidemment, on se demande quel serait l'autre livre, hein. Mais bon, en tout cas, il en ferait partie. C'est un livre qui explique comment devenir un investisseur et un joueur sur les marchés professionnels. C'est la 6e édition, la première date de 1940. Des générations de traders ont été biberonnés à ce livre et ça ne nous a peut-être pas porté chance, nous dirait peut-être Christian Chavagneux. Bref, c'est un livre incontournable. Voilà, c'est la fin de cette émission. À la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.